Yalla yalla.
Salut, lundi, midi, c'est l'heure des points sur les i.
Point barre.
Avec les camarades de l'association Davids, déploiement de l'art vital intersubjectif qui déconstruit sur la brèche. Davids contre Goliath.
Vous avez vraiment, vraiment des manières que j'adore.
Ça commence à se savoir. Commence à se savoir. Et il y a des incendies qui s'allument dans certains endroits parce qu'il fait trop froid. Traducteur, traduisez. Mais n'ayez pas peur. On sait ce que c'est que la radio.
Et Radio Campus, vous savez ce que c'est ? C'est une radio libre associative depuis 1969 sur le 106,6 FM et les podcasts pendant 8 semaines sur le www.campuslille.com. Et les points sur les i,
point barre.
Ouais, les points sur les i, point barre, exactement. Eh ben, c'est l'émission du collectif Davids, déploiement de l'art vital intersubjectif qui déconstruit sur la brèche. Davids contre Goliath. Et la marraine de l'émission, vous savez qui c'est ? Eh ben, c'est Brigitte Fontaine, mais elle le sait même pas.
Et elle sera en concert le 14 novembre à la Maison Folie Beaulieu, à l'Homme.
Ah, voilà, ça dit. En parlant de l'Homme, Christophe Lavie, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Bien, bien. Je suis content d'être aujourd'hui de nouveau derrière le micro et le fait d'avoir dû rentrer un peu en avance de notre périple en grec, ce où nous avons fait une moisson d'entretien pour essayer de comprendre ce qui se passe et de le transmettre, ce que nous avons déjà fait, et puis d'essayer de faire un film. Un documentaire, un document, pour des raisons médicales. Je vais être opéré jeudi de la cataracte d'un déchirement de la rétine, donc ce ne sont pas des nouvelles, je dirais, très très réjouissantes, mais c'est pour ça que j'en parle à la radio. Le fait de continuer de travailler avec ses camarades et d'essayer d'être utile permet, ça me semble une bonne leçon de sagesse, de dépasser le recroquevillement et le stress. Voilà, je pense que l'action au service, entre guillemets, avec humilité de ces idées permet le dépassement des contradictions et de la faiblesse. Voilà. C'est en soi déjà une petite chronique de préambule.
Très belle introduction pour cette émission. Et Justin, bonjour.
Bonjour Baptiste.
Comment vas-tu ?
Très bien. Aujourd'hui, c'est une émission les points sur les i se présentent.
Voilà.
Bah oui.
Comeback.
Il n'y a que des commencements. Voilà.
Et quand même, bon anniversaire Baptiste.
Merci. Bon anniversaire Baptiste.
Voilà. Aujourd'hui, c'est en effet les 30 ans de notre camarade Baptiste qui en plus est aux commandes et fait la technique. Voilà.
Voilà.
Je pense en effet, comme vient de dire Justin, qu'aujourd'hui on se présente. Je ne sais pas si aujourd'hui on se présente, mais j'ai toujours pensé qu'il est très délicat de parler du monde, du militantisme, de la politique, etc. sans incarnation. Nous ne sommes pas des machines. Et donc l'humain est toujours aux commandes de son texte, qu'il soit en bonne santé ou affaibli, etc. etc. Et voilà, c'est pour ça qu'en effet, ce n'est pas la même chose d'affronter le terrain politique à 20 ans qu'à 80 ans, bonne santé que pas en bonne santé, etc. etc., etc. Le corps parle. Et il n'y a pas d'émission de radio possible sans qu'il y ait de la chair. Et ça, c'est un rappel aussi à la dimension philosophique. Je pense que la seule chronique que je ferai aujourd'hui, ce sera sur la technologie aujourd'hui. Voilà.
Et cher Simon ?
Ben ma foi, ça va, hein, ça va, ça vient, comme ça dirait va, l'autre, ça va, ça vient. Et puis, c'est toujours pareil, avoir un camarade qui est dans l'inquiétude par rapport à sa santé, un camarade, un ami, un frère, ben c'est jamais réjouissant, mais c'est pas non plus en s'apitoyant qu'on lui donnera de la force.
Tout à fait.
N'est-ce pas ?
Voilà.
Donc, yalla. Voilà.
C'est parti pour les points sur les i, et je vais inaugurer avec une lecture extraite de la revue, entre guillemets, que vous pouvez trouver et télécharger sur internet, Tikkun, l'organe conscient du parti imaginaire, exercice de métaphysique critique, anéantir le néant. Les hommes de ce temps vivent au cœur du désert, dans un exil infini, en même temps qu'intérieur. Pourtant, chaque point du désert s'ouvre à la croisée de chemins sans nombre pour qui sait voir. Voir est un acte complexe. Il réclame de l'homme qu'il se tienne éveillé, qu'il rentre en lui-même et parte du néant qu'il y trouve. Par là, les veilleurs de l'aube prochaine se rendront familiers de cela même que l'armée en déroute de nos contemporains n'a d'autre affaire que de fuir. Comme tant d'autres avant eux, ils devront soutenir le venin et la rancœur de tous les dormeurs dont ils viendront troubler par leur simple regard le sommeil de masse. Ils connaîtront le despotisme des Philistins et l'on tournera sur leur souffrance un aveuglement volontaire. Car en ces jours plus que jamais, ceux qui ne comprennent pas quand ils ont entendu, ceux qui ressemblent à des sourds et dont témoigne la sentence, présents, ils sont absents, ont pour eux le nombre et la puissance. Et ces hommes-là crucifient plus volontiers ceux qui viennent dissiper l'illusion de leur sécurité que ceux qui la menacent véritablement. Il ne leur suffit pas d'être indifférents à la vérité, ils la veulent morte. Jour après jour, ils exposent son cadavre, mais celui-ci ne se corrompt point.
I'm habibi. Haoul idi. Aïn fiyi. Aïn chini hasa. Aïli. Aïli fayri fadi net mura. Aïli. Aïli fayri fadi net mura. Aïli. Aïli fayri fadi net mura. Aïli. Aïli fayri fadi net mura.
Vous venez d'entendre Renaud, Sidi Habibi.
Voilà, et puis, très légère, très courte introduction à la chronique qui va suivre, qui a été enregistrée, il y a tout pile une semaine. C'était à un des deux hôpitaux d'Héraclion, alors que, avec Baptiste et Christophe, nous accompagnons ce dernier pour savoir ce qu'il en était concernant son œil. Cette chronique devait être diffusée la semaine dernière à la suite de la chronique de Christophe, que certains d'entre vous ont sans doute entendu. Simplement référence à... Je tenais à faire une petite introduction... Parce que simplement je fais référence à la chronique de Christophe, justement, dans ce que vous allez entendre. Chronique qui donc a été diffusée la semaine dernière. Voilà. Chronique de Héraclion depuis l'hôpital universitaire Venizeléou. Il s'agira non pas tant de compléter que de redonner quelques informations en ajout de ce que Christophe disait sur le service public. Nous avons appris d'une part que à Hierapetra, qui est la quatrième ville de Crète, quatrième ou cinquième ville de Crète, l'hôpital ne fait plus d'accouchement, contrairement à ce qu'il pouvait faire par le passé. L'hôpital ne peut plus faire de radio, contrairement à ce qu'il pouvait faire par le passé. L'hôpital ne peut plus faire d'opérations, quelles qu'elles soient, contrairement à ce qu'il pouvait faire par le passé suite aux coupes budgétaires. Dans la deuxième ou troisième ville du pays, Agios Nikolaos, ils ne peuvent plus faire de radio suite aux coupes budgétaires. Le matériel n'est plus sur place. Et ainsi que le disait Christophe, donc à Héraclion, il y a deux hôpitaux. Celui où nous étions hier, ils ne peuvent pas faire de radio non plus. Alors, par exemple, en venant en urgence, ce n'était pas possible de faire une radio pour l'œil de Christophe. Il fallait donc attendre le lendemain pour pouvoir le faire. Donc là, c'est une urgence relative dans le sens où sa santé... est en jeu, mais ce n'était pas imminent, mais on imagine pour quelqu'un qui a sa vie en danger et doit faire une radio immédiatement pour savoir si on peut l'opérer, ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, à ce sujet, nos hôtes en Crète nous expliquaient que beaucoup, on voit partout sur les routes, des panneaux avec des personnes, des sortes de petites chapelles pour honorer la mémoire de personnes qui sont mortes lors d'accidents. Et Morgane, notre hôte, m'expliquait que pour la plupart, ils auraient tout à fait pu être sauvés, mais le temps de leur transfert dans un hôpital où ils puissent être opérés, sachant que Héraclion, il faut parfois 4 à 5 heures pour y accéder selon l'endroit dans l'île où on est, pour beaucoup, ils auraient pu être sauvés, mais le temps de leur transfert, ils sont décédés suite de pouvoir être soignés plus proche de chez eux. Voilà. Et puis, dernière information, là nous venons d'avoir une consultation avec un médecin ophtalmologique qui nous expliquait que ils sont trois médecins pour assurer 7 postes et qu'ils bossent 36 heures tous les 2 jours. Voilà. C'était encore quelques nouvelles du service public hospitalier de Grèce. Toutes ces informations concernant Hierapetra, Agios Nikolaos ou encore cet hôpital, il faut savoir que donc c'est récent tout ça. C'est suite aux coupes budgétaires. Avant, on pouvait accoucher à Hierapetra, on pouvait être opéré à Hierapetra ainsi qu'à Agios Nikolaos. Maintenant, il faut aller sur Héraclion. Toutes ces informations ne sont certainement pas anodines et témoignent des conséquences extrêmement concrètes de la politique néolibérale et de l'infamie de la dette grecque et de ses conséquences en termes de politique intérieure. Voilà ce que je tenais à préciser. Je vous souhaite à tous non seulement savourer mais également défendre à la lumière de ces informations
le service public français hospitalier qui va de mal en pis, mais nous n'en sommes pas encore là, n'est-ce pas ? Donc tout cela puisse avoir valeur d'encouragement, non seulement évidemment pour la situation en France, mais de manière plus générale pour que ce soit également une lutte qui ait valeur dans d'autres pays. Voilà, comme témoignage aussi d'une solidarité et du désir que ce soit que ce système puisse s'appliquer partout dans le monde. Eh bien, je vous souhaite à tous une bonne suite d'émissions et puis à bientôt en direct sur les ondes de campus d'ici un petit mois. Voilà. Bonne journée, bonne semaine. Yassas, stokalo.
Eh ben, c'est passé vite, hein.
Ouais, un mois sont passés très vite, puisqu'il aura été question de quelques secondes seulement pour que nous soyons en direct entre le temps de l'écoute de cette chronique et maintenant. Et je tenais simplement à rajouter que, en citant la revue Maelstrom, revue transnationale en temps de crise, que cette crise justement qui est invoquée pour justifier les coupes budgétaires, etc., n'est pas le résultat, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, d'une mauvaise gestion des institutions financières, d'une mauvaise intendance de certains gouvernements ou du pillage de certains pays par d'autres. Non, cette crise est le produit de la dynamique capitaliste. Elle agit comme un révélateur qui met en exergue la violence structurelle du système. Elle exacerbe le mouvement contradictoire par lequel l'accumulation du capital est accumulation de pauvreté. Le pouvoir est dans l'économie, l'économie est donc immédiatement politique. Et le cirque politicien ne parvient plus à dissimuler sa vacuité. Le mot « crise » n'a pas qu'une connotation négative. Primitivement, le mot latin « crisis » signifie « phase décisive d'une maladie ». Et il est emprunté au grec « crisis », avec un « k » cette fois-ci, qui désigne le jugement, la prise d'une décision importante. Il renvoie à un moment charnière face auquel un choix est à faire.
Moi, je voudrais rebondir sur d'abord le texte qu'a lu tout à l'heure Baptiste en rappelant que « tikkun » est un terme hébreu qui signifie « redresser » au sens « ressusciter », au sens « reconstruire », et que ce texte est le produit d'un travail collectif qui renvoie à deux opus qui ont assez traversé, si je puis dire, la conscience citoyenne et eu de l'écho. L'un s'appelle « L'insurrection qui vient », l'autre « À nos amis », voilà. Et c'est donc le fruit de la réflexion et de l'écriture de ces êtres humains. Autre information, la France est un modèle sur la planète pour la santé, combien même évidemment, sans rentrer dans le détail, nous savons que année après année, on parle de coupes, de comptes de la Sécu, etc., etc., etc. Mais nous n'en serions pas là en termes, si je puis dire encore, de vivre ensemble si depuis 1945, la protection sociale, la santé avait été un socle. Tout le monde sait qu'un être humain, qu'il soit jeune ou âgé, etc., quand il est touché dans ses santé, il est touché au corps. Et donc je voudrais rappeler quelque chose qu'on oublie toujours. Il n'est pas anodin, quand Simon vient de parler de l'inégalité, de la violence, que des êtres humains comme Bouteflika, président d'Algérie, ou Yasser Arafat en son temps, soient venus se faire soigner en France. Il y a un hôpital à Paris qui s'appelle l'hôpital du Val-de-Grâce. C'est une légende, c'est là où statutairement le chef de l'État ou les politiques sont soignés quand ils ont des problèmes de santé. Chirac avait été hospitalisé. Mais il faut savoir aussi que, pour des raisons diplomatiques, si je puis dire, il y a une espèce de service public international du VIP pour la santé. Et des chefs d'État, dans des situations délicates, viennent se faire opérer très discrètement chez nous, à la fois saluant, si je puis dire, un cocorico un peu nauséabond, c'est-à-dire l'excellence de notre matériel médical et de notre personnel, mais enfin montrant aussi l'abyssale inégalité par rapport à leur propre population, n'est-ce pas ? Quand on est chef d'État d'un pays et qu'on vient se faire soigner ailleurs, ça en dit long sur l'état du service de la santé de son propre pays. Je souhaitais rappeler cela. Je ne parle pas, bien sûr, pour être un peu précis, du légendaire hôpital américain de Neuilly, où là... par hasard, une légende, des gens comme Aristate Onassis, etc., grec, étaient venus passer leurs dernières heures, n'est-ce pas ? Là, ça a toujours été aussi une enceinte privée, bien sûr, où les milliardaires de toute la planète venaient se faire soigner. Donc je renvoie à deux détails. L'hôpital du Val-de-Grâce, hôpital militaire, où des chefs d'État du monde entier depuis de nombreuses années, il y a plein d'exemples, vous pouvez vérifier, sont venus se faire soigner. Et puis aussi l'hôpital américain de Neuilly à Paris, où depuis des années, des milliardaires sont venus aussi se faire soigner. La santé, c'est avec l'éducation un des fondamentaux de notre condition humaine. Et merci Simon d'avoir fait cette chronique sur le terrain. Ce n'est pas la même chose en effet de parler du système de santé de la Grèce en regardant un texte ou une émission que de le traverser physiquement. Nous nous sommes rendus compte de l'encombrement, c'est-à-dire les êtres humains sont dans les couloirs en train d'attendre, etc. Le personnel est fatigué. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que ce sont des gens qui travaillent à l'extrême limite de leur force physique. Ils dorment pas beaucoup, ils sont crevés. Ils sont crevés, ils font ce qu'ils peuvent. Et en effet, quand on parle des plans de rigueur, ceci ou cela, avec sur les terrains médiatiques ou avec une espèce d'aridité, de sécheresse, ben, concrètement sur le terrain, ça se voit. Ça signifie en effet que l'être humain est touché dans son corps, tout simplement.
En fait, au final, pour reformuler ce que disait Simon, c'est pas défendre le service civique, c'est défendre la bonne santé de notre corps. Ou encore, c'est pas juste des coupes budgétaires, c'est des coupes de vie. En fait, on tranche des humains en faisant ça. Et tout ça pourquoi ? En fait, pour rembourser des dettes publiques, donc rembourser des banques. Donc en fait, au final, c'est soit le capitalisme survit, soit c'est le peuple.
Et se battre ici, c'est se battre là-bas. Parce que le jour où il n'y a plus d'exemples comme ça de pays où tout le monde peut se faire soigner gratuitement ou presque, eh bien c'est quelque chose qui se dissipe et qui ne devient plus un exemple, impossible réalisé. Et donc défendre ici la santé, eh bien c'est la défendre partout, je le crois profondément.
Voilà, quand on disait aux Grecs, et alors que faire, nanana, bah battez-vous chez vous. Voilà.
Absolument. D'autant que les banques françaises, les politiques françaises sont totalement responsables aussi de ce qui se passe là-bas.
Nous sommes donc en direct de Lille pour la confrontation très attendue, encore inédite, entre les principaux acteurs de l'élection régionale dans le Nord, qui est suivie sans doute par la France entière et probablement aussi par l'Europe. Il s'agit de savoir lequel ou laquelle d'entre vous va présider et animer la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Vous êtes donc trois protagonistes pour ce débat et je vais vous citer par ordre alphabétique pour pas avoir d'histoire. Xavier Bertrand, Les Républicains. Marine Le Pen, Front National et présidente. Pierre de Saint-Ignon, Parti Socialiste. Michaël Darmon.
Alors, que ce débat commence.
La migrante politique de la région Nord-Pas-de-Calais. Je sais ce que vous êtes, Madame Le Pen.
Madame Le Pen,
vous êtes la migrante politique de cette région Nord-Pas-de-Calais.
Entre les deux candidats qui m'entourent.
En vous baladant à chaque fois.
Je vais
vous
répondre. Monsieur de Saint-Ignon, ça vous intéresse aussi. Laissez Monsieur Bertrand répondre à ça.
Je vais vous répondre.
Une question de correction.
Je vais vous dire une chose. Le choix de Saint-Quentin, c'est le choix de garder entre les fonctions de député et conseiller municipal.
De développement économique.
Répondez à ma question. Est-ce que vous siégerez si vous êtes battu ou pas ?
Mais madame.
On va en parler. Si on avait également encore quelques minutes à consacrer.
Non,
on en parlera.
Xavier Bertrand,
on va en reparler.
Tous ceux qui sont sur ma liste.
Vous avez compris que
je mets en conformité avec la règlementation.
Je vous donne la parole.
Clairement, tous avant ce qu'il en est. Ceux qui
soyez corrects.
Xavier Bertrand.
Alors, monsieur, soyez corrects. Là, vous avez bien compris que mes adversaires n'ont qu'un seul objectif, c'est de ne pas parler du développement économique et de l'emploi. Voyez.
Alors, vous allez en parler. Alors,
monsieur Bertrand est un expert puisqu'il passe son temps à courir derrière Madame Le Pen.
Alors.
Ma région est comme mon pays. Ce qu'il lui faut, c'est du travail. Plus de travail. C'est la raison pour laquelle, pour la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, pour ma région, je décide tout d'abord du travail. Plus de travail. Du travail. Plus de travail. Plus de travail. Plus de travail. Plus de travail.
La région sont des feignants que je vais mettre au travail. Moi, Xavier Bertrand. Moi, Xavier Bertrand. La région sont des feignants...
Vous connaissez tous les problèmes de l'emploi, vous avez contribué à en créer, donc vous répondez.
Je suis au cœur de cette question. Je façonne l'économie avec mes amis, l'économie, l'emploi et la formation de cette région depuis bien longtemps.
Moi,
avec mes amis, avec mes amis, avec mes amis, avec mes amis. Je façonne l'économie avec mes amis depuis bien longtemps.
Un patriote n'aurait jamais fait ça.
Bon, une pause.
Pourquoi
la pause, monsieur Saint-Ignon.
La pause.
Marine Le Pen, Xavier Bertrand, on va se retrouver, on marque une pause, c'est un rythme. Soufflez et vous vous retrouvez avec la même énergie dans un instant.
Ariel, nouvelle formule, fait partir le gras et la tâche.
À peine assis, il m'a dit « J'ai pas trop d'argent et je voudrais acheter un appartement. » Être propriétaire, quoi.
Je l'ai envoyé chier, j'ai fait mon métier.
C'est gagné !
Lui, il m'a dit carrément.
J'ai eu des petites dépenses, je risque d'être découvert.
Je l'ai interdit de checker, j'ai fait mon métier.
C'est gagné !
Il est arrivé en coup de vent et m'a débité d'un trait.
J'ai tout le marché français de l'héroïne, mais ça me suffit pas. Je veux plus. Je veux l'Amérique. Mais pour ça, il faut blanchir l'argent.
J'ai répondu, chiche, j'ai fait mon métier.
C'est gagné !
BNB, c'est gagné !
Les 10 slips de Jésus, produits par Razurel.
Nouveau Vicky Way, encore plus de crottes qui flottent.
Nous sommes en direct de Lille pour le débat organisé à l'occasion des élections régionales entre les trois premiers du sondage IFOP, réalisé pour la circonstance. Le débat se déroule dans des conditions claires avec beaucoup de passion, mais ça on le savait, et des conditions qui n'ont pas varié entre Xavier Bertrand, Marine Le Pen, Pierre de Saint-Ignon.
Je savais qu'on aurait un débat de mauvaise foi. Je dis simplement, je me suis exprimé
Pourquoi
clairement.
Pourquoi vous êtes de mauvaise foi?
Je parle...
Il y a 22,5% de chômage.
Pourquoi pas 50%,
le chômeur a baissé. Bah oui,
vous ne connaissez pas vos dossiers, Madame Le Pen.
Céline sait qu'il le dit, Monsieur Bertrand.
Mais non, Madame Le Pen, vous ne connaissez pas vos dossiers.
Vous allez sur Internet et de regarder les chiffres.
Les Français ont besoin de politique.
Communiste, vous voyez, mobilisation citoyenne et républicaine derrière le Parti communiste.
Ils n'ont pas besoin de vos calculs, qui sont des calculs d'apothicaire.
Céline sait qu'il
alors,
le dit.
Sondage IFOP.
L'activité de camping-car qui viennent de Grande-Bretagne s'est effondrée.
Et Scotland Yard l'a dit à de multiples reprises.
Qu'est-ce qui ne marche pas? D'un côté, 565 000 demandeurs d'emploi.
Eh bien, dans la jungle aujourd'hui, il y a 6 000, 7 000, 8 000, on n'en sait rien en réalité, car plus personne n'y va. Mais demain, il peut y en avoir 20
000. Aujourd'hui, il y a ce qui fait par an globalement.
Ce qui fait une équation qui est de 300, monsieur El Kabbach, 300 fois 6 millions, c'est-à-dire 3 milliards 600
millions. Et donc, par exemple, le projet du canal,
c'est aussi simple que ça. Et c'est très important pour le projet, les projets structurants. On a parlé des grands travaux, mais c'est aussi très important.
Sondage IFOP.
Il allait tomber des grenouilles du ciel. Communiste.
Pour arrêter de réciter les fiches.
Céline sait qu'il le dit. Dans votre ville de Saint-Quentin, il y a 22,5% de chômage.
Vous pouvez de la moitié des marchés publics. Il faut arrêter les généralités.
Seulement la moitié ?
Il faut arrêter de réciter.
C'est 80% à la région.
Il faut arrêter de réciter.
80% des 577 marchés.
Je vous parle des entreprises de Saint-Quentin intra-muros.
Je
vous
parle de la région, moi.
Du département et de la région. Je vais jusqu'au bout.
À ceux qui sont cassés, le programme DJ. Emploi DJ. Direct John. C'est quoi ? C'est la belle aventure.
Je suis pas une bombe latine, ni une bombe platine, DJ. Je suis pas une bombe latine.
Moi. Croyez-moi que je crois avoir une voix qui porte et multipliée par 2 en 3 semaines. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est absolument dramatique en termes d'image pour la région quand même, hein? Parce que ça a évidemment des conséquences sur l'image, donc sur le tourisme. Hein, les hôteliers, pour l'instant, ils remplissent leur chambre avec les policiers et les CRS. Bon.
Et Scotland Yard l'a dit à de multiples reprises. Ah, si aujourd'hui nous sommes dans notre renaissance, c'est parce que nous l'avons cherché, nous l'avons organisé, nous sommes matin, midi et soir, en tous les cas, c'est mon cas, battu sur ces questions. C'est ça la vérité qu'il faut dire aux Français.
Je trouve que c'est détestable. Voilà.
Elle n'a pas envie de ça, la raison n'est pas qu'elle est picardie.
Vous racontez
n'importe quoi. Mais bon, on a un petit peu l'habitude.
C'est un point sur lequel on est d'accord.
L'armée en
soutien, excusez-moi, si vous voulez, je vous renvoie. Si vous voulez que je vous renvoie à votre... Comment dire à votre...
La question est finie. Oui. Stéphanie de Monaco.
Même le culot ne remplace pas la vérité,
non,
madame.
C'est une erreur. Alors, c'est vrai, ça vaut pour l'un et l'autre. Vous trompez, monsieur Bertrand, aussi vous soyez.
Et ceux qui regardent et écoutent, on se demande et on ne s'étonne pas après pourquoi l'abstention parfois est aussi forte quand on vous écoute.
Pas indispensable à la prospérité du capital. On ne nous les servirait pas partout, toujours, à coups de fric, à coups de flic. N'était pas le meilleur antidote contre nos grèves et nos révoltes. On ne nous la scènerait pas à tous les coups, à coups d'assemblée syndicale. L'électoral n'était pas si propice à l'extension du marché. On ne nous le parachuterait pas en casque bleu, sac de riz à la main, mitraillette à l'épaule. ne suffit plus à nous faire parler, à nous faire taire. On maintient l'ordre à coups de sabre. On lâche la bride à la flicaille. On lâche la bride à la flicaille.
Arrêtons, arrêtons ce spectacle lamentable. René Binamé, quelques mots sur le cirque électoral en conclusion de ces extraits d'un cirque qui s'est passé à la télé la semaine dernière.
En tout cas, merci Baptiste, parce que tu as fait un travail de montage que je trouve pédagogique et pécho. Et face à, en effet, nous avons regardé ce débat en différé. Et les deux valeurs que ça doit nous inspirer, c'est à la fois, je dirais, de l'humour et du courage, de ne rien lâcher. C'est-à-dire qu'en effet, on atteint dans... en regardant, vous pouvez le regarder en différé, chacun joue sa partition. Je rappelle quand même que M. Bertrand, pour l'UMP, Les Républicains, maintenant, pour être très précis, est candidat aux primaires de la présidentielle, que Mme Le Pen est également...
pas de pub ni de marque sur Radio Campus.
Non, c'est... Voilà, et que il s'agit donc de la région dans laquelle nous sommes, et que d'un seul coup, nous devenons, je dirais... très intéressant, un peu, je renvoie cela à la Grèce, c'est-à-dire quand la Grèce, il y avait les élections de Tsipras, etc., ça devenait le thème de laboratoire d'observation. Je parle de laboratoire, c'est-à-dire la Grèce devenait le laboratoire, entre guillemets, de la gauche, de la résistance, de beaucoup de choses. C'est pas tout à fait comme ça que les choses se vivent sur le terrain. Comme la Palestine est un peu un laboratoire aussi de toutes sortes de tensions. Et puis maintenant, je parle de l'effet laboratoire, l'effet miroir avec les médias. Le Nord-Pas-de-Calais devient un laboratoire des pathologies françaises, de la vie politique française, de la suite française, parce qu'il y a un effet de miroir grossissant. Voilà.
Et sur cet effet de laboratoire, eh bien, je voulais dire un mot qui croise à la fois, eh bien, toujours dans la revue Maelstrom, revue transnationale en temps de crise, un article écrit par Tapesiatis Galarias, donc qui est un groupe anti-autoritaire, qui écrit un article depuis Athènes, et puis la rencontre également avec un certain Paul dans Anosotros, lieu anti-autoritaire du quartier d'Exarchia, toujours à Athènes, qui nous disait qu'il en avait marre de faire des interviews. Et là je rebondis sur ce que tu disais à l'instant, Christophe, parce que depuis le début de la crise, nous disait-il, la droite nous considère comme un laboratoire, mais la gauche aussi. Tout le monde vient ici pour chercher des solutions, mais si on en avait, on n'en serait pas là. Les gens aiment croire aux contes de fées, nous disait-il. Et encore sur celle-là, là, ce sera plus un rebond sur ce que le montage, l'excellent montage de Baptiste pour montrer le cirque électoral.
Et il y a des moments, c'est pas tant monté que ça. Hein. Quand on les entend parler tous en même temps, j'ai juste extrait le son de la vidéo, c'est tout.
Ouais. Et simplement, voilà. Là, c'est donc dans l'article de l'état actuel des choses, on compte les défaites donc des enfants de la galère. Eh bien, il nous parle du mouvement des places, aussi appelé ailleurs mouvement des indignés, qui avait lieu également en Grèce, donc en 2011-2012. Et il disait que le mécanisme de Syriza et d'autres organisations de la gauche ont pris part incognito dans les groupes clés d'organisation et ont ainsi réussi largement à dominer le contenu et les formes de la lutte en promouvant une idéologie nationaliste de gauche, d'indépendance nationale, de reconstruction productive de l'économie grecque, d'annulation de la part odieuse de la dette, etc., etc. En fin de compte, pour cette raison surtout, le mouvement a toléré des nationalistes d'extrême droite, et plus encore, ce mécanisme a fait de son mieux pour limiter la lutte à un niveau purement symbolique, sapant toute suggestion pratique pour l'extension de la lutte, tout en promouvant la provocateurologie. Provocateurologie, c'est-à-dire simplement le fait de considérer que dès qu'il y a violence lors d'un mouvement social, eh bien c'est nécessairement le produit des provocations de la police. Et donc promouvant la provocateurologie contre ceux qui se sont battus contre les forces de l'ordre dans les manifestations. Une grande partie de la classe laborieuse et de la petite bourgeoisie fait reposer ses espoirs de renversement de la politique de dévaluation sur l'élection d'un gouvernement Syriza. Et donc simplement, il s'agissait à travers ces citations de souligner le fait que l'élection et le parlementarisme à travers les espoirs qu'il fait reposer sur un parti comme Syriza ou Podemos en Grèce ou le mouvement 5 étoiles en Italie, viennent finalement saper l'herbe sous le pied du mouvement social, puisque désormais, ne vous occupez de rien, braves gens, le parti qui défend vos intérêts, eh bien, va s'en occuper. Donc, inutile de continuer d'occuper la rue, d'occuper les places, on s'occupe de tout, rentrez chez vous.
Il y avait pourtant un bel espoir dans ce qui s'était passé en Espagne, en Grèce notamment. Et voilà, je laisse Kenny Arcana illustrer avec toute sa verve.
Lorsqu'on s'aperçoit que la politique qui est menée par tel ou tel État, notamment par le nôtre propre, ne va pas vers la justice, vers la juste distribution des richesses, alors la colère vient.
Le mouvement des ouvriers avait commencé à Madrid en Espagne, et c'est désormais New York que sont les concerts. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont marché dans la ville. La manifestation a dégénéré.
Le mouvement a gagné.
En Allemagne, les défilés ont rassemblé des milliers de
Londres. Même genre d'occupation au cœur de la ville.
Il pleut des émeutes sur le globe. Oui, la jeunesse est dans la ville. Police ne changera rien parce que l'opprimé et nous habite par son imaginant. Que partout on sera libre, au-delà des frontières et sans aucun parti. Allez leur dire trop, trop sont années pour être en carte et pas si vite. La répression à la haine et frappe même les pacifistes. CRS acharné, chien d'un avenir qu'on falsifie, fragilisé. À l'heure où la bonne foi est rarissime, révolte se ramifie. Sur chaque continent, c'est imminent. Ingérable sera notre plus beau compliment. Incarnons le changement que l'on veut voir avant de tomber dans un trou noir poussé par les chaînes du pouvoir. Au jour le jour, car demain n'est pas indiqué. Révolution par le bas, car leur monde est mal imbriqué. Dites-leur que la rage du peuple est bien huilée. Printemps 2011 a vu fleurir des milliers d'indignés. La rue s'est soulevée à en faire trembler la machine. Indignados, c'est l'humain qui s'est levé mondialement et sans parti. Indignados, indigné, lève-toi. Anonyme, dans vos villes, s'il vous plaît, on est des milliers. Qu'est-ce à l'eau à la cage? Última batalla como podemos olvidar. Hay sangre en lágrimas y no desde ahorita. El humano salió, el puño levantado. Indignados, unidos con los pueblos de todos lados. Viejo mundo, adiós, no es que un sueño. Pero lo que llega si asustamos a los dueños. Porque somos juntos más allá de la frontera.
Levántate, levántate.
El mismo corazón para todos los hijos de la tierra. Del amor, acá los pueblos tienen la rabia.
Pueblos unidos, pa, 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 pa.
La rue s'est soulevée en faire trembler la machine.
Indignados, pa, 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 pa.
C'est l'humain qui s'est levé mondialement et sans parti.
Indignados, pa, 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 pa.
Indigné, lève-toi. Anonyme, dans vos villes, s'il vous plaît, on est des milliers. Quel est salio à la cage? C'est le printemps qui marquera l'histoire. À cœur anonyme qui fait trembler le pouvoir. La Grèce antique peut être fière de sa postérité, luttant avec courage contre leurs mesures d'austérité. Indignados s'est embrasé sur le globe. Partout a résonné l'appel de la porte del sol. Comme une traînée de poudre s'est propagée la révolte. Parce qu'au-delà de nos frontières on s'est reconnus dans l'autre. Une seule et même terre meurtrie. Et genre, l'âme collective a le cœur triste. Écoute, l'insurrection est de sortie. La rue s'est soulevée, même jusqu'au pied de Wall Street. Un même cœur au milieu de racines. Contre politique fasciste à l'heure où police assassine. Rien de facile, précipice, on a quitté la file. Y'a de l'espoir dans l'air, écartez-vous. Les indignés arrivent. La rue s'est soulevée, en faire trembler la machine.
Indignados,
c'est l'humain qui s'est levé mondialement et sans parti.
Indignados,
indigné, lève-toi.
Voilà, après petite correction, hein, anonyme et sans parti, pas encarté, bah, malheureusement je pense que la récupération de, notamment en Espagne par Podemos de ce mouvement, ça va pas donner du bon quoi. Et donc c'est pas grave, ça reprovoquera des réunions comme ça dans les rues et de la lutte, j'en suis confiant.
Et autre éclairage de la part de Paul de Nosotros qui nous disait que depuis des années, il côtoyait le mouvement anti-autoritaire, côtoyait des gens dans la rue qui, sans être dans la mouvance anti-autoritaire, ont été très proches de la culture libertaire, et en tout cas ils agissaient ensemble, mais qu'avec l'ascension de Syriza, et ben beaucoup se sont rapprochés de ce parti, ont mis tous leurs espoirs dans l'élection de Tsipras et ont coupé les ponts avec le mouvement social dans la rue. Et ils nous disaient espérer que la déception qui viendra de toute façon de la part de Syriza, et cette déception que ça va susciter chez les gens, eh bien amènera un certain nombre de ces personnes qui se sont éloignées de la rue à y revenir. Et il nous précisait également, ça c'est quand même intéressant, que Syriza, s'ils sont aujourd'hui les plus radicaux au sein de la gauche européenne, eh bien ils sont néanmoins beaucoup moins radicaux que ne l'était le PASOK, l'équivalent du PS grec, en 1981 lors de leur élection. Eux, le PASOK, ont fait au début de vraies mesures proches de l'idéologie socialiste communiste pour les gens. Ils disaient même vouloir sortir de l'OTAN, ce que jamais Syriza n'a même osé évoquer. Et Syriza disait, par exemple, qu'il ne signerait jamais aucun accord militaire avec Israël et reconnaîtrait la Palestine comme État et serait le deuxième gouvernement après la Suède à reconnaître l'État palestinien. Eh bien, une des premières choses qu'ils ont faites après être arrivés au pouvoir, ça a été de signer un des accords les plus à l'avantage de l'armée israélienne avec ce pays. Voilà, donc, ils ne sont, nous disait Pavlos, radicaux que dans les discours, mais maintenant c'est clair. Alors j'en ai marre que des gens continuent de nous poser des questions sur Syriza. Il suffit de regarder ce qu'ils font. Ils sont déjà prêts à signer d'autres mesures d'austérité dans les mois qui viennent. Voilà, éclairage d'un camarade de Nosotros qui répondait à quelques questions qu'on lui posait sur ce qu'il pensait de la situation en Grèce depuis l'élection de ce parti.
Je voudrais juste, à l'éclairage de ce que tu viens de dire, dire que ce qui m'a le plus marqué dans cet être humain lumineux, intelligent et subtil, c'est qu'il m'a appris quelque chose. Et ce qu'il m'a appris, je vais le transmettre à la radio pour tout le monde. Avec beaucoup d'humour et d'une voix lasse, alors qu'il travaille en même temps comme barman, entre guillemets, c'est un camarade qui travaille comme barman, etc., etc. Enfin, il travaille, quoi. Il n'est pas dans la parlotte. Il m'a dit ceci. C'était de l'humour. Il m'a dit, j'ai peut-être vu 500 personnes qui m'ont interviewé. Et la leçon qu'il me disait, c'était la suivante. C'est que ceux qui venaient l'interviewer dans une mouvance, en quelque sorte, conformez-moi dans le fait que la Grèce, on est paresseux, c'est le merdier, etc., etc., c'était très clair. Mais il avait aussi cette intelligence de me dire qu'il avait les anarchistes allemands, etc., une espèce de tourisme d'extrême-gauche internationale qui venait non pas pour apprendre, entre ceux qui viennent pour qu'on leur dise c'est la merde et Syriza c'est pas bien, et ceux qui viennent pour dire c'est génial et Syriza c'est bien, c'est-à-dire ce qui fascinait, c'est ces gens qui viennent et qui veulent simplement entendre ce qu'ils pensent déjà. Voilà, et ça c'est quelque chose que j'ai découvert, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai renvoyé au phénomène de laboratoire. Il y a des gens qui vont en Israël-Palestine, ils ont déjà une idée préconçue avant, et ils repartent avec la même. Ils ont simplement envie de dire, de relater ce qu'ils pensaient avant. Ce n'est pas pareil d'arriver quelque part et d'essayer d'apprendre et de penser qu'on n'a pas, si je puis dire, la vérité tout établie, un prisme, n'est-ce pas ? Parce qu'on retombe, c'est un classique dans le grand débat, est-ce qu'il faut assumer des responsabilités et consolider, ou est-ce que ça veut dire trahir, ou continuer de maintenir la pression, etc., le problème de l'aiguillon. C'est le grand classique, c'est le débat Staline, Lénine et Trotsky, c'est le débat Che Guevara et, Castro, c'est le débat qui s'est passé en Grèce aussi, c'est-à-dire on a le pouvoir, on assume des responsabilités, ou alors, il faut continuer de maintenir la pression. Il ne s'agit pas de trancher ou pas, mais c'est ça qu'il m'a le plus appris, Pablo, c'était tous ceux qui viennent et qui majoritairement viennent en posant des questions pour repartir avec exactement ce qu'ils avaient en état de démonstration avant.
Tout à fait. Il nous disait d'ailleurs, le jour où on l'a rencontré, hier, des Allemands qui se disent anarchistes m'ont interviewé et ils n'étaient pas contents de ce que je disais de Syriza. Ils espéraient que j'allais dire que ça allait quand même mieux grâce à eux et hésitaient même à écrire ce que je leur disais.
Et petite transition et puis ensuite extrait du colosse de Maroussi de Henri Miller. Transition avec la réplique, pour nous donner la réplique dans cette émission Les Points sur les I sur Campus.
Si pour les mains que vous nous avez pas tendues, de toute façon ça avait bien fait, on les aurait mordus. Merci pour les défilés militaires. J'adore voir cette armée qui a perdu toutes les guerres. Ils ont voulu ma mort, ils mordent plus fort. On peut peut-être crédit chez vous, pourrez pas nous.
encore un petit effort. Je crois bien que j'aimerais la vie. Ils ont voulu ma mort, ils m'ennuient plus fort. Mais peut-être le trébuchet, vous pourrez pas nous arrêter.
S'appelle Le Colosse de Maroussi. La Grèce est la patrie des dieux. Ils ont eu beau mourir, leur présence s'y fait toujours sentir. Les dieux étaient de proportion humaine, c'est de l'esprit de l'homme qu'ils sortirent. Si les hommes cessent de croire qu'ils seront un jour des dieux, il est sûr qu'ils ne dépasseront jamais le stade de l'asticot. Le mode de vie qu'observe aujourd'hui l'Amérique est condamné aussi sûrement que celui auquel se conforme l'Europe. Aucune nation sur Terre ne peut vraisemblablement donner naissance à un nouvel ordre de vie tant que celui-ci n'apparaît pas à l'homme sous l'angle de l'univers. De cruelles erreurs nous ont enseigné que tous les peuples de la Terre sont liés les uns aux autres de façon vitale, mais nous n'avons pas su faire intelligemment usage de cette connaissance acquise. Nous avons vu deux guerres mondiales, nous en verrons sans aucun doute une troisième, une quatrième, peut-être davantage. Il n'y aura pas d'espoir de paix tant que le vieil ordre n'aura pas explosé. Il faut que le monde redevienne petit, comme l'était le monde grec autrefois. Assez petit pour inclure chacun de nous. Tant que les hommes, jusqu'au dernier, n'y seront pas inclus, il n'y aura pas de véritable société humaine. Mon intelligence me dit qu'une telle condition de vie mettra longtemps à venir. Mais mon intelligence me dit aussi que rien en deçà ne satisfera jamais l'homme. Tant qu'il ne sera pas devenu pleinement humain, tant qu'il n'aura pas appris à se conduire en partie intégrante de cette terre, l'homme continuera à créer des dieux qui le détruiront. La tragédie de la Grèce ne réside pas dans l'anéantissement d'une culture grandiose, mais dans l'avortement d'une vision grandiose. Nous disons à tort que les Grecs ont humanisé les dieux. C'est exactement le contraire. Ce sont les dieux qui ont humanisé les Grecs. Les Grecs ont fait une mythologie d'une réalité trop vaste pour leur compréhension humaine. Nous oublions, dans l'enchaînement où nous plonge le mythe, que ce dernier est né de la réalité et qu'il ne diffère fondamentalement d'aucune autre forme de création, sauf en ce qu'il a trait au cœur même de la vie. Nous aussi, nous créons des mythes, bien que nous ne nous en rendions peut-être pas compte. Mais dans nos mythes, il n'y a pas de place pour les dieux. Nous construisons un monde abstrait, déshumanisé, avec les cendres d'un matérialisme illusoire. Nous nous prouvons à nous-mêmes que l'univers est vide, tâche que justifie le vide de notre propre logique. Nous voulons à tout prix être des conquérants, et conquérants nous serons, mais notre conquête, c'est la mort.
Les gens prennent des airs ébahis et charmés quand je leur parle de l'effet que ce voyage en Grèce a eu sur moi. Ils disent qu'ils m'envient, qu'ils voudraient bien pouvoir y aller un jour eux-mêmes. Pourquoi n'y vont-ils pas? Parce que nul ne peut goûter l'expérience désirée qui ne commence par être prêt à s'y soumettre. Les gens veulent rarement dire ce qu'ils disent. Quiconque prétend brûler de faire autre chose que ce qu'il fait, ou d'être ailleurs que là où il est, se ment à lui-même. Désirer n'est pas seulement souhaiter. Désirer, c'est devenir ce que l'on est, essentiellement. Il est des êtres qui, lisant ces lignes, comprendront inévitablement qu'il n'est pour eux d'autre solution que d'aller dans l'acte au bout de leur désir. C'était donc des extraits du Colosse de Maroussi, écrit par Henri Miller.
Merci Baptiste, génial.
Oui, merci Henri, merci Baptiste.
Juste un détail qui est quand même très important, me semble-t-il. Il ne faut quand même pas oublier, quand vous entendez ce texte, très bien choisi, qu'il a été écrit à peu près il y a 64 ans au compteur, de mémoire, 1939 ou 1941.
Il publie en 41.
Oui. Publié en 41, voilà. Tout est dit, publié en 41, donc écrit un peu auparavant. C'est pour ça qu'il fait évocation de deux guerres mondiales, parce que c'est des gens en plein dedans quand il écrit cela. Et que c'est ça qui est fascinant, eh bien, on ne peut pas dire que ça date. Avec le diagnostic, tant pour la Grèce que pour nos sociétés, que pour l'Europe, etc., etc., est absolument atemporel, en particulier parlant de la petitesse. Voilà.
Et petite invitation à aller visiter un site internet, puisqu'on a quand même parlé de nos autres, et puis qu'on vous parlera également dans d'autres émissions de Micropolis, qui sont donc nos autres à Athènes et Micropolis à Thessalonique, des lieux organisés où on peut à la fois aller prendre un café et puis faire participer à des discussions politiques et s'organiser avec des camarades. Eh bien, font tous les deux partie d'une plateforme anti-autoritaire à l'échelle européenne, qui a un site internet qui s'appelle beyondeurope.net, donc B-E-Y-O-N-D Europe.net, dont notamment eh bien, la première... premier événement, entre guillemets, ce terme n'est pas tout à fait très bien choisi, mais qui a été organisé à travers cette plateforme, eh bien, c'était cet été, c'était en Chalcidie, donc pas très loin de Thessalonique, pour lutter contre les mines d'or qui détruisent totalement eh bien, la nature dans ces endroits-là. Voilà.
www.beyondeurope.net, également lille.demosphère.eu. pour savoir quoi faire cette semaine, entre autres. Également www.campuslille.com pour le podcast de cette émission et des autres programmes de Campus. On vous souhaite une bonne semaine. C'est ensuite El Barrio en direct ou en automatique. Voilà. Différé. Et puis quand même un petit clin d'œil, une petite conclusion par Brigitte Fontaine. On vous dit à la semaine prochaine. Tchuss, tchuss.
Portez-vous bien.
Stoccalo.
Ah, ça sera vraiment coupé à mon lèvre. Salut, lundi midi.